Bonsoir, C3B vous souhaite la bienvenue à son deuxième téléphone sonne iconé entièrement fait main, bio et local. Nous avons changé de serveur téléphonique afin de pouvoir accueillir davantage d'auditeurs. À votre arrivée dans la salle de conférence virtuelle, laissez-nous un petit message sur notre adresse courriel c3b-debat-contact@yonlautre.fr pour nous en informer. Véronique recevra vos questions ou commentaires sur cette même adresse et les transmettra à Laurent qui tentera d'y répondre à la fin de chaque présentation de sujet. Mesdames et messieurs, veuillez éteindre votre cigarette et attacher votre ceinture. Nous vous souhaitons un agréable vol sur C3V Airlines et je laisse la parole à notre commandant de bord, Laurent Grisel. Bonne soirée à tous. Allô?
Oui, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre nombreux. Donc, vous avez vu le programme de ce soir est pas follement gai. Il s'agit d'ouvrir les yeux. Alors que on essaie de nous persuader que les choses vont dans un certain sens. Édouard Philippe, notre premier ministre, a déclaré dimanche dernier. Cette crise va nous entraîner dans une crise économique, cette crise sanitaire. Et bien sûr, c'est faux. La crise sanitaire n'est pas la seule ni entièrement responsable de ce qui est en train de se dérouler. La crise économique était déjà là avant, elle sera là après. Ce qui se passe, c'est que elle fait tomber tous les faux semblants de sauvetage de l'économie, de reprise d'activité qui ont été mis en place au cours de la crise de 2006-2009 et après. Le château de cartes est en train de tomber. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a eu le renflouement des banques et des entreprises dans la crise qu'on appelle de 2008, qui est en fait a commencé au moins en 2006. Et ces renflouements, il a fallu les payer. C'est-à-dire que les banques centrales ont emprunté, les États ont emprunté, et c'est nous qui devons rembourser. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, par exemple, en France, on a vu tout de suite, quelques temps après, M. Hollande augmenter de façon importante la TVA. Et puis, tout cela s'est payé en lits d'hôpitaux au moins. Cela s'est payé en baisse des revenus, s'est payé en chômage, en fermeture de services publics, et ainsi de suite. Qu'est-ce que cela a provoqué? Eh bien, une pauvreté accrue. Il faut quand même se souvenir que la crise soi-disant des subprimes, c'était quoi? C'était des gens qui avaient emprunté pour acheter un logement à des conditions délirantes, et qui, à un moment donné, font défaut, c'est-à-dire ils ne remboursent plus leurs dettes. Et donc ces défauts ont entraîné des faillites en cascade dans le système bancaire et ensuite dans l'ensemble de l'économie. Au départ de cette crise, il y avait déjà la pauvreté. Il y avait déjà, endettez-vous, les dettes pour compenser les baisses de revenus. Nous sommes en fait dans la même situation aujourd'hui, mais de façon aggravée. Vous savez que nous sommes dans un pays dans lequel il y a à peu près 9 millions de pauvres, 9,8 millions. Il y a à peu près 6 à 7 millions de Français qui ont du mal à payer leur loyer ou à rembourser leurs emprunts. C'est une étude qui vient de sortir. On constate qu'aujourd'hui, avec le confinement, il y a à peu près 35% des actifs dont les revenus baissent, pour 29% une baisse partielle, et plus rien du tout. Alors, la situation avant que n'arrive le coronavirus est déjà commune. C'est une interruption, quelqu'un n'entend pas. poursuit. C'était déjà des dettes privées absolument énormes. Pour reprendre la situation aux États-Unis, les étudiants en 2017, donc avant le coronavirus, on est bien d'accord, il y avait 1350 milliards de dettes de prêts aux étudiants. Vous savez que là-bas, les études ne sont pas gratuites, il faut payer. Sur ces 1350 milliards, il y a à peu près 11% de défauts, c'est-à-dire de prêts qui ne sont pas remboursés. Dans l'automobile, il y a 1200 milliards, toujours aux États-Unis, et il y a 7,5% de défauts. En 2017, c'était déjà 70% de plus de montants de dettes cumulées. Toujours aux États-Unis, le montant total de la dette, c'est à 1 300 milliards de dollars. À quoi a servi l'argent qui a été déversé par les banques pour sauver, et par les banques centrales pour sauver l'économie dans les années 2006, 7, 8 et 9? Non pas comme le raconte le roman à l'eau de rose de l'économie classique pour investir dans l'économie soi-disant réelle, en fait toute l'économie est réelle, mais pour permettre à ces entreprises, par exemple, de racheter leurs propres actions, qui est la technique la plus facile pour faire monter les cours en bourse. Comme ils se payent sur sur leurs actions, en rachetant leurs actions, ils se payent eux-mêmes. Cet argent était aussi utilisé pour que ces entreprises, pour qu'elles achètent des obligations ou des produits structurés, c'est-à-dire des produits compliqués et risqués, à d'autres entreprises. Donc, par exemple, Apple, en 2017, avait 156 milliards de créances sur d'autres entreprises. Cela représentait 60% de ses actifs. Ses actifs, c'est les ressources qui peuvent être mobilisées immédiatement. Et ainsi de suite. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une entreprise, parce qu'il y a pour une cause quelconque, n'a plus les revenus, ne peut plus rembourser, à ce moment-là, celle qui a les créances se trouve, la misère se transmet d'une entreprise à une autre. C'est le mécanisme qui est à l'œuvre en ce moment, puisque les entreprises ferment, ne trouvent plus de débouchés et ne sont plus capables de rembourser. Elles ne peuvent même pas prendre du cash pour prendre de l'argent en bourse, puisque les bourses dégringolent, et d'ailleurs les bourses dégringolent précisément parce que on brade ces actifs. Le choix qui a été fait, c'était celui de la financiarisation contre la production. Alors, maintenant, une autre donnée aussi, c'est que justement en raison de ces politiques de misère généralisée, d'attaque des services publics, de baisse des revenus, le système productif était déjà en baisse avant que n'intervienne la crise que nous connaissons. Il faut savoir que l'industrie automobile en Allemagne, d'octobre 2018 à octobre 2019, a vu sa production baisser de 14% en un an. Les machines-outils en Allemagne, en un mois, en octobre 2019, donc octobre 2019, on ne connaît encore rien de la nouvelle variété de coronavirus, baisse de 4,5%. Aujourd'hui, les banques centrales n'ont pas de recul. Elles sont à des taux d'intérêt extrêmement bas ou négatifs. Par exemple, le taux directeur de la Fed est à peu près aux environs de 1%. Il y a un niveau d'inflation de 2,5%, c'est-à-dire que les taux d'intérêt réels est négatif. Qu'est-ce qu'elles font, les banques centrales? Qu'est-ce que font les États pour essayer de sauver leurs plus beaux fleurons? Ils font comme en 2007-2009, ils inondent de liquidités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils rachètent à tour de bras des créances pourries. Ça veut dire qu'ils garantissent des prêts. Et pour cela, ils empruntent. Donc, Les 1 000 milliards dont vous entendez parler, ce sont des milliards qui sont empruntés, qui seront remboursés par les États et les banques centrales plus tard. Par qui? Je vous laisse deviner. Donc, le mécanisme d'une crise financière et industrielle majeure est lancé. Bien sûr, il y a la transmission des arrêts d'usine le long de la chaîne de production. Les pièces détachées sont plus produites, elles n'arrivent plus, l'usine s'arrête. Mais il y a fondamentalement, d'une part, le fait que les gens sont plus solvables, ils n'ont pas d'argent, que c'est la misère, et que par conséquent, les produits ne trouvent plus de débouchés, et d'autre part, les montages financiers dont je vous ai parlé, qui servent d'accélérateur et de courroie de transmission ultra rapide d'un segment de l'économie à l'autre. Il y a une histoire qui est tout à fait exemplaire de cette histoire-là, c'est l'effondrement du pétrole. Le lundi 20 avril, il y a 3 jours, le baril de pétrole, enfin, qu'on appelle West Texas Intermediate, c'est-à-dire c'est le pétrole américain. Le prix du baril, un baril, c'est 159 litres. Il était de 60 dollars début 2020. A été bradé, donc dans des contrats à terme pour livraison en mai, à moins 37,63 $. On n'avait jamais vu ça, à moins 37 $. Ça veut dire que ceux qui possédaient des titres sur ce pétrole donnaient de l'argent pour qu'on vienne les débarrasser de leur pétrole. Voilà, parce que les stocks sont pleins. Pourquoi les stocks sont pleins? Parce qu'on produit trop. Pourquoi on produit trop? Eh bien, parce qu'il y a une guerre du pétrole entre les trois principales entités sur ce marché, les États arabes unis, la Russie et les États-Unis. Et ils ont les uns et les autres, les Arabes et les Russes, pour cible les États-Unis qui sont venus perturber le marché avec leur gaz de schiste. Donc, ces États qui, pour lesquels le pétrole est une ressource vitale, ils font pas grand-chose, c'est leur principale ressource, eh bien, ils ont mené cette guerre, qui était interprétée par la presse comme une guerre entre Arabie et Russie, ce qui est faux. La cible, c'est les États-Unis, le nouveau venu. Et bien entendu, ceci est lié à une crise écologique, puisque les prix, le pétrole doit être vendu cher, à plus de 70 dollars, ou même à plus de 90 dollars, pour couvrir les coûts de production. Pourquoi les coûts de production sont élevés? Parce que on a passé le pic pétrolier, et donc le pétrole est de plus en plus cher à extraire. Donc on a une crise écologique doublée d'une crise sociale, doublée d'une crise financière. Elles sont toutes entremêlées, elles s'entraînent les unes les autres. Alors qu'est-ce qui nous attend? Ben, des faillites, d'après la COFACE, qui est un organisme d'assurance à l'export en France, prévoyait qu'il y aurait 25% de faillites globalement si le PIB mondial ne baissait que de 1,3%. Donc ces chiffres sont largement dépassés. On prévoit, produit intérieur brut dans la zone euro, une baisse de 30%, de nouveau, ceci au conditionnel. Pour cela permet de donner l'échelle, aux États-Unis, la fameuse grande crise dite de 1929, le PIB était tombé de 30%, bah ouais, le même pourcentage, de 30% entre 1929 et 1932. Aujourd'hui, on prévoit moins 30% en l'espace de 2 ou 3 mois. Vous voyez qu'on a bien progressé. Alors, qu'est-ce qui nous est promis à la suite de ça? C'est pas une récession. Une récession, c'est une baisse du produit intérieur brut pendant 6 mois d'affilée. Là, c'est carrément une dépression. Pourquoi? Parce que tous les facteurs de l'économie sont attaqués en même temps. Le travail, le capital, la finance, les ressources naturelles et autres, tout est tendu, tout s'effondre en même temps. Eh bien, une dépression, classiquement, cela mène à la guerre, à la révolution, changement de régime. C'est pour ça que j'ai tenu à dépeindre les choses telles que c'est, me semble-t-il, peu décrit, parce que ça veut dire que c'est à nous de jouer. Il faut savoir qu'ils n'ont renoncé à rien, hein. Ils sont résolus à nous faire payer. Ils ont mis en place ce qu'il faut pour ça, le projet de la loi d'urgence sanitaire prévoit de nouvelles destructions du code du travail. Le patron, le chef du MEDEF a dit, ah, mais au retour, il va falloir travailler davantage. Donc c'est à cela qu'il faudra résister. Et maintenant, je vais prendre connaissance de vos questions s'il y en a.
Pas pour l'instant.
Pas pour l'instant. Je laisse passer une petite minute de silence ou deux ou trois. Et après ça, je prendrai l'autre partie de la conférence qui est prévue. Donc j'attends vos questions, mais s'il n'y en a pas, j'en déduirai que je vous ai assommé, mais ce n'était vraiment pas du tout le but. Bon, ben alors j'avance et puis pendant qu'on avance, vous pourrez continuer de poser vos questions à l'adresse qui vous a été donnée. Et je répondrai en vrac après que j'ai fini mon laïus. Alors, il faut revenir un peu en arrière avant le déclenchement de cette crise sanitaire. Puisque là, je veux parler de contrôle des populations, de maîtrise, si possible, de la contestation. Eh bien, il faut évidemment se souvenir que la contestation était généralisée dans le monde tout au long de l'année 2019, au moins, bien avant le premier malade en décembre à Wuhan. Tous les régimes politiques pratiquement sont en difficulté, aussi bien en Égypte que en Israël, qui n'arrive pas à se trouver de premier de gouvernement. Ça y est, maintenant ils en ont un, qui suscite d'ailleurs tout de suite des manifestations dans la rue malgré la situation de confinement. Évidemment, en France, le pouvoir est en grande difficulté. Vous vous souvenez que Madame Buzyn, la ministre de la Santé, a été brutalement retirée du jeu pour être mise aux élections municipales de la ville de Paris. La discussion parlementaire sur la destruction du système solidaire de retraite. On est tellement mal au fur et à mesure que les questions étaient posées et que le pouvoir et ses députés Godillot ne pouvaient pas répondre. La propagande gouvernementale s'effondrait. D'ailleurs, aujourd'hui, ils disent, bon, ben, ça divise les Français, ça veut dire nous sommes en difficulté, on remet ça à plus tard. Toutes les régions, c'est vrai aux États-Unis aussi, où l'opposition démocrate ou se sont disant démocrate n'est pas mal en point. Vous connaissez la situation en Hongrie, où en Europe centrale, ce sont des pouvoirs autoritaires qui doivent s'installer. Ceci est le résultat, évidemment, il y a la situation, je ne voulais pas l'oublier, en Afrique noire, il y a aussi en Algérie. On peut tourner ses regards dans tout l'essence en Amérique latine, partout les pouvoirs étaient en difficulté. Alors, le confinement, c'est quand même bien pratique, il n'y a plus de manif. Il faut s'arrêter un petit peu et comprendre que le confinement, ils sont obligés de le pratiquer, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, puisque le confinement, c'est la solution du pauvre. C'est quand on n'a pas de masque, quand on n'a pas de test, quand on n'est pas capable, on n'a pas les capacités matérielles et d'organisation, et quand en plus, il n'y a pas suffisamment de lits et qu'on craint d'être débordé, et nous l'avons été, nous le sommes. Quand on laisse crever les anciens dans les EHPAD, ça c'est un choix, et ça c'est bien parce que le système de santé est débordé. Donc, le confinement, il n'y a pas le choix. Mais il faut reconnaître que c'est une aubaine. Cela permet de suspendre des libertés et cela permet d'essayer un certain nombre de choses. Donc, c'est comme ça qu'on voit maintenant des drones se balader dans le ciel pour voir s'il n'y a pas trop de contrevenants, qu'on est en train de nous préparer sur une petite casserole au coin du feu un système de traçage par les téléphones intelligents. Donc, je ne peux que vous recommander d'adopter le téléphone bête. C'est aussi pendant ce temps que se développe le télétravail qui s'aborde la relation entre enseignants et enseignés. On aura peut-être bientôt un passeport sanitaire, pourquoi pas, nos déplacements contrôlés. Bon, vous me direz si ça ressemble à la démocratie ou pas. Bien entendu, tout ceci est destiné à durer un certain temps pour deux raisons. La première, parce que le risque sanitaire existe, on ne connaît toujours pas bien ce virus, il est extrêmement agressif et plus proche d'une maladie du sang que d'une maladie des poumons, puisque ça attaque beaucoup d'organes, y compris le cerveau, le système digestif, etc. Donc la bête est là et c'est pas tout de suite qu'on va avoir un vaccin. On n'est même pas sûr qu'il y ait l'immunisation de masse, puisque on dit, il semble, que l'immunisation n'est pas excellente et ne sera pas de toute façon de très longue durée. Pour les coronavirus précédents, c'était de l'ordre de 2 ou 3 ans. Donc, ces mesures vont rester. Il va falloir vivre avec et donc l'aubaine va continuer. Et puis la deuxième raison pour laquelle ça va rester, tout simplement que même si on était tous guéris, ça arrange tellement le pouvoir qu'ils vont le maintenir. Donc ça pose la question, nous, comment on va faire? Alors on peut faire comme les manifestants de Tel Aviv dont je vous parlais. J'ai vu une photo absolument extraordinaire dans la grande place de la ville. Elle est entièrement occupée. Ils sont tous dans des carrés dessinés au sol de 1 mètre de côté. Et évidemment, la surface occupée est beaucoup plus grande. Donc nous allons pouvoir faire des manifestations beaucoup plus somptueuses. Et puis, il y a des procès qui sont engagés, qu'il faudra soutenir. Et puis, on sait qu'ils ont peur. Alors, il va y avoir des batailles sur l'hôpital. Ils vont essayer de continuer la privatisation de l'hôpital malgré ce qui s'est passé, en prétendant que c'est pour le soigner, etc., etc. Ils vont dire qu'ils mettent des milliards pour l'hôpital. Et ce sera, vous le verrez, des milliards pour l'hospitalisation privée. Alors, il commence à y avoir quelques questions. Y a-t-il des faillites de banques à prévoir? Oui, tout à fait, forcément, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a des milliers de milliards de créances douteuses qui se baladent, et là, elles ne peuvent plus être tenues à bout de bras. On va avoir la même chose qu'entre 2007, puisque dès l'été 2007, il y a eu des renflouements de banques à base d'inondations de liquidités. On va voir la même chose qu'à cette époque-là, où le système financier est atteint au cœur. Quand vous voyez que Ford, ses obligations, il y en a à peu près pour 30 milliards, sont maintenant notées junk bond, ça veut dire obligation pourrie, oui, il va y avoir des faillites de banques. Alors, il y a une autre question. Cette fameuse dette, qui doit de l'argent à qui? Alors, le mécanisme est le suivant. Il y a d'abord l'État qui s'endette. Il donne de l'argent, il va en donner aux artisans, aux entreprises, aux particuliers. On donne des primes, surtout pas de salaire, hein, faut pas rigoler avec ça, mais des primes de 1 000 euros par-ci, de 1 500 euros par-là, etc. Pour prendre cet argent, l'État emprunte auprès des marchés financiers. C'est une dette d'État, l'État est éternel, il finira bien par rembourser. Donc, voilà le mécanisme de la dette. En ce qui concerne, il y a une autre fabrication de dette qui est l'achat par la Banque Centrale Européenne ou par la Banque de France des créances douteuses des entreprises. Ça veut dire que les pertes, les déficits passent de l'entreprise privée à des organismes publics. C'est la fameuse socialisation de la dette. Et donc, c'est pour ça que je dis que l'expérience de ces 10-15 dernières années le montre, poison, eh bien, ces dettes de l'État, eh bien, il y aura à un moment donné, comme l'État devra rembourser ses emprunts, il y aura des augmentations de TVA, il y aura des quantités de mesures pour nous prendre encore un peu plus d'argent dans notre poche pour que l'État puisse rembourser auprès des marchés financiers les dettes qu'il était obligé de faire. Alors, voilà une suggestion. Je lis. Une grève générale dès le 11 avril, bloquer le pays. Bien, oui, c'est ce à quoi il faudrait arriver. Il y a déjà, en fait, déjà des débuts, des commencements de grève. Il y a eu une bataille, là, depuis la mi-février, à peu près. Bon, comme vous le savez, la ministre du Travail, Madame Pénicaud, a donné l'ordre aux inspecteurs du travail de challenger, ça c'est leur vocabulaire, c'est-à-dire de défier les entreprises qui voulaient arrêter le travail et mettre leurs ouvriers, leurs employés en chômage partiel. Et donc les directions départementales du travail ont refusé un grand nombre de ces arrêts de travail. Et donc, il y a eu, ça c'était un premier élément de l'exercice du droit de retrait. Le droit de retrait, c'est en fait une espèce de grève légale. Il y aura, dès le 11 mai, je pense, c'était ça l'idée. La générale dès le 11 mai, excusez-moi. Il y a, cet exercice du droit de retrait continue de s'exercer. Il y a, vous le savez, dans des entrepôts d'Amazon, des employés qui ont commencé de refuser de travailler. Et puis finalement, c'est le juge qui a dit que Amazon devait prendre des mesures de sécurité. Amazon a arrêté le train de ce entrepôt pendant à peu près une semaine. Il y a un rendez-vous là du confinement, c'est dans l'enseignement, les classes. Le propos est le suivant, c'est on remet les enfants à l'école, les parents sont libérés et donc on se remet au travail. Évidemment, les profs n'ont pas envie de servir de chair à canon pour un retour au travail. Donc, il y en a pas mal qui se posent la question d'exercer leur droit de retrait. Mais, de nouveau, ces droits de retrait, ces protestations, c'est encore très dispersé. Ce n'est pas la grève générale que tu appelles de tes voeux, chère correspondante. La grève générale, c'est tout autre chose. Et donc, pour l'instant, force est de reconnaître qu'on ne la voit pas, on ne la voit pas venir. Va y avoir un premier test, c'est le 1er mai. Est-ce que pour fêter le travail, le 1er mai, c'est le moment ou jamais? Est-ce qu'il y aura des manifestations dans la rue qui vont, donc évidemment, non autorisées, et qui vont, ironiquement, mais aussi avec justesse, respecter les distances de sécurité? Pour ma part, je suis tout à fait d'accord pour aller faire une manifestation à Auxerre ou ailleurs, dans laquelle nous serons tous portant nos masques de différentes couleurs et à distance d'au moins un mètre les uns des autres. Et nous allons occuper une large chaussée de cette façon. Donc là, je pense que cette idée de grève générale, il va falloir la tester affrontement par affrontement et autant que possible aller à la grève. En tout cas, en France, on n'en est pas encore là. Il y aura un chemin, je ne sais pas lequel. Alors, il y a une autre question. La décision de suspendre le pacte de stabilité. Pourquoi maintenant? Est-ce qu'il y a un changement de stratégie au niveau européen? Et qu'est-ce que cela représente par rapport à la crise de 2008? Alors, je vais commencer par la dernière question. Le changement par rapport à la crise de 2008, on voit à quel point la crise aujourd'hui est beaucoup plus grave. En 2008 et dans les années qui ont suivi, le pacte de stabilité a été en fait respecté férocement et la première victime a été la Grèce, qui a été menée à la famine avec des pensions de retraite, si je me souviens bien, baissées de l'ordre de 40% et quelques. Avec là, de nouveau, des hôpitaux qui ont fermé, avec des médicaments de première nécessité qui n'arrivaient plus. Donc là, il y a une vraie tragédie. Je vous avoue que pour moi, c'est une honte que nous n'ayons pas été plus nombreux et plus efficaces pour venir au secours du peuple grec. C'est un crime. Alors, aujourd'hui, eh ben non. Parce que quoi? Parce que il n'y a pas que la Grèce qui est en difficulté. Il y a aussi l'Allemagne, pardon, puis il y a la France, puis il y a l'Italie, et puis les principales économies de la zone euro sont impactées. Donc là, tout d'un coup, on trouve que non, il va falloir prendre des facilités. Pourquoi maintenant? Comme je vous le dis, ils sont contraints. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce que, en fait, dans une situation comme celle-là, il faut penser de nouveau en termes de géopolitique et de concurrence entre États, de concurrence entre entreprises. Quand tout le monde est atteint, c'est celui qui est le moins atteint et qui se redresse le plus vite qui remporte la mise. Et la question des rapports de force sont relatifs. D'accord, on peut être affaibli, mais si on est moins affaibli que les autres, alors on l'emporte sur les autres. Ça veut dire on peut acheter leurs entreprises, etc., etc. Donc c'est ça la course contre la montre du point de vue du pouvoir, des pouvoirs économiques et politiques qui est engagé. Donc non, il y a un changement de stratégie européen. Oui, il y a une stratégie de survie et de compétition plus féroce que jamais, mais qui se servira très bien des cadres juridiques, de la concurrence pure et parfaite et autres contes de fées pour s'en prendre aux gens. Alors, une remarque ou une question, il y a mutualisation des dettes et privatisation des profits. Oui, en fait, si je puis poursuivre ce jeu sur les formules, ce qu'il faudrait, c'est socialiser les profits. Qu'est-ce qui s'est passé avec les renflouements de banques dans la période de 2007, 2009 et après? Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Puisque, en fait, pour les banques comme pour les entreprises, vous voyez que Fnac Darty a reçu, je ne sais plus le nombre de dizaines de milliards d'avances, sans aucune contrepartie. les sociétés pétrolières, comme Total, reçoivent aussi des milliards sans aucune contrepartie environnementale ou autre, ou sociale. Donc, oui, il faudrait socialiser les profits, c'est-à-dire socialiser les entreprises. Pourquoi est-ce que l'extraction de pétrole devrait être une propriété privée? Je ne comprends pas. Le pétrole, tout le monde en a besoin, ça sert à tout le monde. Je vois pas pourquoi ça appartient à des actionnaires. Là, il va falloir qu'on m'explique. C'est absurde. Alors que l'économie est tout à fait sociale, il n'y a aucune raison que la propriété soit privée. Bon, je ne sais pas si j'ai vraiment bien répondu. Alors, une autre remarque ou question. Le confinement est une aubaine pour les pouvoirs. Oui, en effet. Et aussi une autre interprétation possible, exacerbe les colères sociales, donc risque d'embrasement. Tout à fait. Absolument. Le confinement exaspère les gens. D'ailleurs, nos relations avec nos voisins immédiats, je vous le confesse, sont en train de se dégrader. Et dans les immeubles, la vie n'est pas facile. En fait, là, on est de nouveau en train de répondre à la question de la révolte, ou la grève générale ou autre, qui s'avance. En fait, les enquêtes d'opinion montrent que la défiance envers le pouvoir est toujours là. Il y a eu un petit sursaut quand le gars, là, le jeune, a commencé à dire c'est la guerre, on prend les choses en main et ainsi de suite. Et très rapidement, en à peu près une semaine, la confiance est passée de 60% à 40%. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, faut quand même faire confiance à la bêtise de ceux qui nous veulent du mal. Bon, vous vous souvenez, il faut pas porter des masques, c'est idiot. D'ailleurs, les gens ne savent pas comment les mettre, et en plus, ça sert à rien. Et on a très vite compris que c'est parce qu'il n'y en avait pas qu'ils avaient décrété que scientifiquement ça servait à rien. On est dans une période historique dans laquelle les mensonges s'effondrent presque immédiatement. Ce qui fait que une condition à la révolte et à la mise en place d'alternatives, la construction d'un monde meilleur, cela ne peut se faire que si le niveau de consentement diminue et que le niveau de réflexion et de révolte augmente. On est plutôt dans cette configuration-là en ce moment. Alors, une autre remarque ou question. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Comment pousser le peuple à la révolution consumériste? Plus chez Amazon, ses discounts, supermarchés, etc., et relocaliser. Bon, je ne pense pas qu'on puisse pousser le peuple, c'est une façon de parler. Je ne pense pas que ce soit l'idée non plus des personnes, des amis qui posent cette question. En effet, le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est-à-dire que parmi les choses, les révolutions en cours, en fait, je pense, ça, c'est en train d'avoir lieu. Il y en a qui se passent du côté de la consommation. Alors, d'un côté, Amazon et les autres sont en train de faire de bonnes affaires. Ils embauchent, ils infectent au coronavirus un maximum de leurs employés. Pour eux, les affaires vont bien. Vous aurez remarqué que lors de son dernier déplacement décoratif, le jeuneau, là, le Micron, il est allé en Bretagne dans un supermarché. Les supermarchés vont jouer un rôle social important. Ils vont distribuer, mais vous allez voir, quasiment gratuitement, les gels hydroalcooliques et les masques. Donc, ça a commencé, ça va continuer. Dans une crise économique, le but, c'est quand même de se débarrasser de tous les gêneurs, c'est-à-dire les petits, ceux qui vous prennent des parts de marché, et de renforcer la puissance des gros. Donc là, il y a vraiment une manœuvre en cours pour augmenter la part de marché de la grande distribution financiarisée jusqu'au cou, voire même plus haut encore. Mais d'un autre côté, il y a aussi les achats de proximité, il y a aussi le développement de la récup, il y a le développement du recyclage, de la réutilisation, etc. etc. Et ceci augmente. Alors, quel sera le résultat de la bataille entre les deux? Ça, je ne sais pas. Mais ce qui est vraisemblable, il y a deux ou trois forces qui jouent en faveur de la relocalisation, de l'achat de proximité, de la sortie de la bouffe industrielle, etc. Il y a plusieurs facteurs qui jouent dans ce sens-là. Le premier, le confinement, ça peut aider des commerces de proximité. Bon, enfin bon, si c'est une supérette, je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux. Mais ça peut aussi favoriser, ça favorise en ce moment les circuits courts. Tous les agriculteurs qui sont autour de nous qui font de la vente directe, ils sont vraiment très, 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 très sollicités. Donc pour eux aussi, en fait, ça fait vraiment bien. Il y a une autre force aussi qui pousse dans ce sens-là, c'est le bilan sanitaire désastreux de la bouffe industrielle et de l'agriculture industrielle. Ils sont à la reculade, ils sont sur la défensive. La dernière farce significative en ce sens, c'était la communication de la FNSEA, le syndicat de la grosse exploitation agricole et de l'industrie agroalimentaire via les coopératives contre l'agri-bashing. Vous vous souvenez aussi de ce préfet de Seine-et-Marne qui avait passé un accord avec les chasseurs pour chasser les contrevenants au confinement. Vous savez qu'il y a eu la création d'une brigade de gendarmerie qui s'appelle Déméter, pour spécialiser dans la chasse aux écologistes qui s'en prennent à la culture industrielle. Ils sont sur les défensives, ça veut dire qu'il faut continuer l'offensive. Ça, je pense que c'est très important. Et puis, il y a une autre chose aussi, si je puis me permettre de faire une suggestion, c'est d'attaquer de nouveau, beaucoup plus systématiquement, la publicité. La publicité vend du poison, la publicité empoisonne. Donc là, il faut continuer d'attaquer, attaquer, taper, taper, taper sur les points les plus faibles, jusqu'à temps que ça cède. Donc, de nouveau, ça n'ira pas tout seul, mais en fait, des choses que nous avons apprises à faire fonctionne, il faut continuer certainement sur une échelle beaucoup plus large. Il y a une autre chose aussi, c'est que il y a des syndicats, des organisations paysannes dans le monde entier qui prennent des positions, qui font du lobbying pour en faveur de la culture paysanne. Il y a aussi, il ne faut pas oublier ce qui se passe dans le domaine de la pêche. Il y a une organisation qui s'appelle Bloom qui milite activement contre la pêche industrielle et pour la pêche artisanale. Il faut soutenir Bloom. Donc il y a une grande diversité de mouvements qui en fait fonctionnent tous sur les mêmes principes, sur les mêmes analyses, qu'il faut soutenir séparément et qu'il faudra, j'espère le plus vite possible, amener à frapper ensemble. Voilà, aidé par tous les citoyens. Il y a une autre question. On est en train de chercher une question. J'ai répondu à tout. Ah, voilà. Alors, oui, on l'a retrouvé, excusez-moi. Quel sera le paysage de l'Europe après cette crise Covid-19? Une Europe divisée, par exemple la position de l'Italie contre les mesures qui se profilent. A priori, oui. Alors, d'abord, la notion de après Covid-19. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le plan médical, la vitalité et les propriétés de la vélocité de Covid-19 sont toujours aussi remarquables. Donc, faut vraiment qu'on dispose nos muscles et nos esprits pour des luttes de longue durée. Vis-à-vis d'Aleni qui est affaibli par sa crise, mais c'est pas pour tout de suite. Donc, faudrait imaginer si on est capable, si c'était après, ce serait, je dirais, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Disons dans 2 ans, puisque c'est à peu près, on estime, on espère trouver un vaccin d'ici, trouver et valider, hein. Un vaccin d'ici un an et ensuite le temps que tout le monde soit vacciné, disons d'ici 2 ans. Alors, d'ici 2 ans. L'Europe divisée, elle a déjà commencé d'être cassée. Je vous ai parlé de la Grèce. Quand les autorités européennes, France et Allemagne réunies, obligent la Grèce à ouvrir des camps de concentration, ça ne peut pas s'appeler autrement, dans les îles pour capturer et garder les réfugiés et qu'on donc fait peser aux plus faibles des pays la charge la plus lourde, c'est déjà, je dirais, un début d'exil de la Grèce en dehors de l'Europe. Bon, évidemment, on achète les îles, les plages, les ports et les aérodromes grecs à tour de bras, mais enfin, à un moment donné, on a tout acheté. Et c'est plus proche de la colonisation d'une coopération. La lutte entre les pays pour la prééminence en Europe est plus vive que jamais. C'est la rivalité entre la France, les pays du Sud, et l'Allemagne et ses pays alliés, notamment les Pays-Bas. Donc oui, comme la concurrence devrait être exacerbée. Il se peut qu'émergent des besoins communs, par exemple en termes de politique sanitaire, en termes de politique financière, pour nous donner l'impression que l'Europe sert à quelque chose, qu'il y a une solidarité, etc., etc. Très certainement, ils vont essayer de faire vibrer cette corde. Mais dans une Europe plus bureaucratique que jamais, qui est dirigée par les croyants du dogme du dit consensus de Washington, moins d'État, plus de privé, pas de dette publique, et ainsi de suite. Pour eux, l'idéal, c'est quand même le retour à l'économie financiarisée et à la bureaucratie capitaliste tous azimuts. Donc, je pense que oui, une Europe divisée. Donc, l'enjeu pour nous, c'est quoi ? Ben, c'est la solidarité entre les différents peuples. Donc, j'ai dit tout à l'heure ce que je pensais de ce que nous avons fait à la Grèce. Ce qu'il faudrait essayer dès maintenant, c'est que nous ayons nos pools de traducteurs pour être en correspondance constante, fréquente, avec nos camarades italiens, nos camarades allemands, britanniques, que les Britanniques soient partis Brexit, c'est pas, peu importe, avec les différents pays. C'est vraiment pour qu'il y ait une coordination des luttes et des objectifs de lutte au niveau européen. Pour reprendre l'exemple de l'agriculture ou de la pêche, Bloom, c'est une organisation française, mais la question se pose. La pêche est extrêmement importante aux Pays-Bas, où alors là, c'est la pêche industrielle qui a gagné. On le voit, ce sont les principaux promoteurs de la pêche électrique, hein, qui ravagent les fonds marins, qui les stérilisent littéralement. Mais je ne sais pas, il y a peut-être des consommateurs des Pays-Bas qui sont révoltés. La question, sur toutes les questions sur lesquelles nous travaillons, se pose à chaque fois le défi de coalition européenne des mouvements. Et c'est sur cette base-là que l'on pourra commencer de dessiner un paysage d'une Europe vivable et désirable. Et ce travail reste à faire. Il y a des mesures très pratiques il y a des mesures très pratiques à prendre, à s'organiser. Certains d'entre nous ont un petit peu de temps en ce moment. Qu'est-ce qu'on met en place dans tous les domaines, hein, dans le domaine littéraire, dans le domaine du théâtre, dans le domaine des luttes agricoles, dans le domaine des luttes ouvrières, dans les réflexions sur les codes du travail. Pourquoi est-ce qu'on ne se met pas à élaborer des codes du travail alternatifs, le vrai, le bon, qui seraient applicables à tous les pays d'Europe? Idem pour les systèmes de retraite, puisque donc la prédation financière lorgne sur tous les systèmes publics. Il n'y a pas de raison que ce soit public, autant mettre ça entre les mains des financiers qui savent tellement bien travailler. Donc voilà, j'anticipe sur les prochains papiers sur lesquels je vais travailler qui sont publiés dans l'un de l'autre. Qu'est-ce que nous pouvons faire dès maintenant? Dès maintenant, je pense qu'on peut travailler à ces solidarités européennes. Pas seulement de l'entraide hein, en termes de qui est nécessaire hein, en termes de proposer des biens de première nécessité, mais vraiment d'entraide en termes de lutte, d'aspiration, de conception, d'anticipation du futur. Je pense que ça, c'est urgent. Et de manière très pratique, je répète, il faut qu'on mette en place des pools de traducteurs, c'est-à-dire qu'un pool, c'est imaginer une grande salle dans laquelle il y a tous les binômes possibles d'une langue à une autre, et que quand on discute un texte de revendication commun, il est publié presque immédiatement dans 8 ou 10 langues. Ce qui fait que, évidemment, l'unité d'action est facilitée. Il y aura, je pense, peut-être que ça a déjà été ébauché, par ailleurs, ça je ne sais pas, mais à mettre en place, pourquoi pas, dès demain, des systèmes de cet ordre. J'ai répondu un peu longuement. D'autres questions? Ça, j'ai répondu. Ouais. Ah oui, oui, j'ai répondu sur le consumérisme, oui. L'aubaine répondu. Alors, il n'y a plus d'autres questions? Oui, ça j'ai répondu. Oui, sur le pacte de stabilité, j'ai répondu. Oui, la grève générale, tout ça. Bien, merci pour ce débat. Si ça vous parvient. Si il n'y a pas d'autres questions, on peut arrêter là. Je voudrais, avant de conclure, pour commencer, remercier beaucoup la collégiale de C3V qui a mis en place ce nouveau système. J'espère qu'il est plus satisfaisant que le précédent. On n'aura mis personne sur le côté. Ensuite, cet entretien, cette conférence est enregistrée, donc on va récupérer l'enregistrement, il faudra ensuite le mettre au bon format, le mettre en ligne, mais ça devrait se faire. On va continuer, C3V a décidé de continuer ses conférences d'actualité. La prochaine sera mardi prochain, pas les mêmes voix, vous aurez les informations. C'est Magali Mas qui tiendra le micro et qui parlera justement de ces questions d'éducation et autres. Ah, c'est une question super. Bon, on va la prendre, évidemment. Comment organiser un 1er mai contestataire? Écoutez, ce que je propose, c'est de prendre la rue. Et le prendre de façon spectaculaire, c'est-à-dire justement en respectant les distances de sécurité. Je pense que, on peut avoir différents petits groupes qui, à un moment donné, convergent au même endroit. Je pense qu'on devrait pouvoir faire ça, pourquoi pas au Serre ou dans n'importe quelle ville de France. Alors, il y a une autre remarque. On va la prendre. Les vaccins sont à la solde des entreprises pharmaceutiques capitalistiques. Oui. C'est pour ça qu'il faut socialiser ces entreprises. Alors socialiser, ça veut dire quoi? Ça peut être nationalisé, enfin pas forcément, ça peut être municipalisé, ça peut être devenir des coopératives, ça peut. Il y a différentes formes de droits de propriété collective qui permettent de reprendre la main. Parce que dans le système actuel, ce sont les propriétaires qui ont le pouvoir, ce sont les propriétaires qui décident. Alors quand Sanofi ferme un centre de recherche, eh ben, les chercheurs sont renvoyés. Il n'y a plus de recherche. Oh, il n'y a pas besoin de faire de recherche, ça coûte trop cher. On préfère vendre déjà ceux qui existent déjà. Donc, et puis c'est pareil pour localiser. Ah oh, ben on va faire ça en Inde, ils ont ils fabriquent des composants, des médicaments, des molécules. Très bien. Donc on peut fermer ici, on peut le racheter là-bas. Donc si on veut reprendre la main, je ne vois pas d'autre moyen que de socialiser. On peut bien sûr dire à l'État, s'il vous plaît, nationalisez. Pour l'instant, on en est réduit là. Mais à un moment ou à un autre, à la suite de la grève qui prend le contrôle de l'appareil de production, il y a la socialisation, dans laquelle on dit, eh bien maintenant, c'est nous qui sommes les propriétaires, c'est nous qui prenons les décisions. Bien entendu, c'est plus facile si cela se fait dans plusieurs pays à peu près en même temps. Quand je dis qu'il faut préparer la presse, ça veut dire qu'il faut vraiment dès maintenant regarder quelles activités devraient être socialisées parce qu'elles sont d'utilité publique, parce qu'elles correspondent à une activité sociale. Alors, localement, notre marge de manœuvre immédiate. Ça nous de répondre localement. Je pense que on peut dès ce soir ou dès demain matin avoir des réunions de discussion par ce genre de moyens ou aussi peut-être en se rendant visite quelques-uns les uns les autres autant que possible, dès, justement, puisque localement, s'il y a des proximités, discuter comment est-ce qu'on peut préparer un 1er mai. De toute façon, vu l'aubaine dont on parlait tout à l'heure, le contrôle en cours de route, on ne pourra manifester, on ne pourra protester que en désobéissant. Ça, c'est clair. Donc, les désobéissances massives vont mettre le pouvoir en difficulté. Et là, vous allez les entendre dire nous mettons le monde en danger, nous sommes des assassins qui mettons en danger l'hôpital parce qu'on va être malade, etc., etc. On connaît le chantage. Donc c'est pour ça que je propose de respecter judicieusement et peut-être aussi ironiquement les distances de sécurité, les masques, les gants, les blouses, les charlottes. Et tout ça, évidemment, joyeusement décoré. Certains de nos camarades seront arrêtés, donc il va falloir les soutenir, protester, obtenir leur libération. Et c'est comme ça que les choses seront enclenchées, par exemple, peut-être. On se souvient des luttes des Noirs américains dans les années 50-60. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Ben, pour être émancipé, parfois, il faut commencer par être emprisonné. Car savoir l'envisager. Alors, correctif. Le gros producteur, c'est l'Arabie Saoudite, pas les Émirats Arabes Unis. Oui, j'ai dû prononcer État Arabes Unis et c'était ma fourche à langue. Je parlais bien de l'Arabie Saoudite. Hein. Tout à fait. Hein. Merci d'avoir rectifié. Donc, quand je parlais de la guerre du pétrole entre États-Unis, qui n'est pas un très très gros producteur, enfin qui est devenu un gros producteur, mais qui surtout perturbe le marché, je parle de la Russie, Arabie Saoudite et États-Unis. C'est bien ce trio qui est en guerre. Le but étant d'expulser le perturbateur du marché. Entre parenthèses, c'est un événement géopolitique majeur, puisque depuis l'après-guerre, le marché du pétrole, et surtout depuis les années 71-73, avec quand on est sorti des accords de Bretton Woods, c'est-à-dire que le dollar n'a plus été indexé sur le cours de l'or, mais est devenu libre, et qu'à ce moment-là, la monnaie de référence était les pétrodollars, ce qui fait que la dette américaine, c'était notre problème, ce n'était pas le problème des États-Unis. Ce système a fonctionné sur une alliance entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Cette alliance est brisée. Donc c'est un tremblement de terre majeur dans les équilibres géopolitiques. Et donc cela contient à terme des risques de guerre également. Puisque je parlais de guerre tout à l'heure, une autre question. C'est dans la rue que ça se passe, oui, on est bien d'accord, c'est bien ce que je me permettais de suggérer tout à l'heure, et dont nous allons discuter par petits groupes de plus en plus gros rapidement. Alors, la recommandation, c'est d'écouter la chanson « C'est dans la rue que ça se passe » de la compagnie Jolly Moum. Allez sur YouTube, chantez-le. Musique.